BFM Business présente. BFM Entreprise, leadership, la méthode. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Entreprise consacré comme tous les lundis au leadership. Une demi-heure avec un leader qui va nous expliquer comment il dirige, son parcours, sa méthode, les clés de sa réussite, les épreuves qui l'ont forgé, quel meneur est-il. Aujourd'hui, BFM Entreprise, c'est avec Cara Corazza.
BFM Entreprise, leadership, la méthode, sur BFM Business.
Bonjour Cara Corazza.
Bonjour Sandra.
Ravie de vous avoir dans cette émission Leadership. Je vais un petit peu parler de votre CV, mais il y a tellement de choses sur ce CV qu'on n'aura pas le temps de tout dire. Vous êtes née à Parme, vous êtes ancienne journaliste, vous êtes citoyenne italienne et britannique, vous parlez 5 langues, italien, français, allemand, anglais, espagnol. Vous avez été enseignante en Italie. Vous êtes encore en France d'ailleurs ?
Non,
vous ne l'êtes plus. Vous êtes actuellement conseillère spéciale pour le Global Leadership by Women Summit. Vous êtes représentante de la France pour le business au G20. Vous me corrigez si je me trompe.
C'est parfait.
Vous êtes membre du GIEC du G7. Vous êtes présidente du Women Economic Forum Europe. Et vous êtes membre du comité économique social Euro, c'est ça ?
Européen.
Européen, exactement. Première question que je pose à tous mes invités dans cette émission. Est-ce que vous êtes née leader ?
Alors, c'est difficile de répondre. En fait, je crois que oui. Mais je crois que oui, avec beaucoup de modestie, parce que c'était certainement pas leadership de voix haute, de panache, de grands gestes, mais leadership dans le sens qu'on me confiait très vite des responsabilités. Ma grand-mère m'appelait la silencieuse opérante, en bon italien, silencieuse opérante, c'est-à-dire celle qui fait, qui est efficace, sans rien dire. Et la preuve, c'est que quand j'avais même pas 7 ans, on m'a complètement confié l'éducation de mon frère, qui était, nous on est 3 sœurs, avec un frère qui est né 6 ans après moi. Donc en fait, il y a eu plein d'autres choses à faire dans la maison, et donc on l'a confié complètement à une fille qui avait 7-8 ans. Et quand je dis complètement, je sortais de l'école, je lui préparais à manger, je l'amenais partout, je lui ai acheté les choses pour qu'il puisse dessiner, etc. Et ça, c'était quand même une marque de confiance. En fait, moi, très jeune, j'étais très mûre. Et puis je voyais très bien, si Cara fait un truc, ça veut dire qu'on peut le faire. Parce que j'étais quelqu'un de responsable, de sérieuse, de sage, comme on peut dire, même quand j'étais toute petite. Donc, en fait, c'est un peu l'exemple que, avec Cara, on ne se trompe pas. On sait. Donc, en fait, c'est un leadership souterrain, mais qui amenait des personnes pareilles en classe. J'étais extrêmement suivie, c'est-à-dire, une fois de plus, c'était, il faut faire comme dit Cara, il faut faire comme fait Cara. Et tout ça, avec quand même, j'insiste, ma maladie profonde, vraiment une timidité maladive, donc certainement pas quelqu'un qui parlait, qui prenait la parole, qui s'est montré. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement timide et j'ai passé toute ma vie à essayer de combattre cette timidité avec beaucoup d'efforts et ça m'a joué des très mauvais tours, à commencer dès quand j'étais jeune. Et heureusement que les épreuves du bac et à l'école, j'étais au lycée français de Rome, et heureusement qu'il y avait des écrits, parce que moi, s'il y avait de l'oral, je me suis plantée, j'ai raté ma mention très bien au bac, à cause de l'unique chose qu'on ne pouvait pas faire par écrit, qui était la gym.
Ah, oui.
Parce que moi, en fait, j'avais pris des options, j'ai pris le latin. Le latin, j'étais très forte. Alors tout le monde me disait, oui, t'es très forte parce que ton arrière-grand-père était le grand philosophe, traducteur de Socrate, etc. Donc tu es forcément bonne. J'étais très bonne en allemand parce que c'est ma langue maternelle. Et j'étais très bonne en exercice au sol. Donc j'ai pris ça comme option, en pensant que j'aurais comme ça la mention très bien. Et bien, manque de peau, il fallait être juste un corps noir, avec des collants noirs. Alors, quand vous avez 17 ans, et que vous avez tous ces hommes qui vous regardent comme ça, ben, je ratais le premier, jusqu'à la fin, j'ai eu 0. Et donc, je n'ai pas eu ma mention très bien. C'est à cause de ça, de ma timidité.
Ça ne vous a pas empêché de réussir votre carrière, de réussir votre vie professionnelle. J'ai énuméré quelques-uns de vos postes, qui sont très différents les uns des autres. Professeur, journaliste, on va parler évidemment du combat pour les femmes à travers tous vos postes, mais avant cela, vous avez aussi travaillé sur le développement économique de diverses organisations. Comment se construit cette carrière et surtout comment on passe de postes si différents les uns des autres ?
Alors, Sandra, très clair. Moi, quand j'étais petite, mais depuis toute petite, je voulais changer le monde. Je voulais faire des choses. Je voulais soulever des montagnes. Je voulais être utile. C'était mon purpose. Il n'y avait pas d'autre chose. Et à l'époque, j'étais convaincue que la meilleure façon de changer le monde était la plume. Mais la plume au sens propre du terme, être journaliste. Mon rêve était de devenir une Oriana Fallaci qui pouvait interviewer les grands de ce monde, les influencer, les porter dans la bonne direction. Donc, arriver à un niveau tel des compétences pour pouvoir que vos lecteurs comprennent ce que vous dites et qu'ils vous écoutent. Et c'était ça mon rêve. Alors, vous parlez de mes 4 ans de prof, c'était un épiphénomène qui correspond à ma timidité. Quand, juste avant le bac, la directrice générale de l'école me dit « Chiara, est-ce que vous voulez assumer tous les cours d'allemand de la 4e à la terminale alors que j'ai à peine 17 ans ?» que je m'ai trouvé à côté de mes professeurs, vous dites oui, et puis vous dites oui parce que c'est un défi. Ça veut dire que vous devez avoir une classe à tenir, que vous arrivez avec vos petits tailleurs chics et votre chignon sur la tête pour bien montrer que vous êtes une vieille dame capable d'enseigner. Et je dois dire que c'était des satisfactions énormes. J'étais aimée comme c'est pas permis. J'avais tous les parents d'élèves qui allaient dire « Elle a une façon d'enseigner qui est géniale. Elle enchante l'allemand. » Alors que l'allemand n'est pas forcément une langue que tout le monde adore. Il n'y avait jamais personne en retard. Tout. Et puis moi, je les amenais visiter là où Goethe était dans Rome. Je les amenais visiter, aller au cinéma. Je les amenais faire beaucoup de choses. Et souvent, j'avais des élèves plus âgés que moi. Mais je les fais par défi. Moi, mon vrai rêve était d'être journaliste. Et quand j'ai réussi à être journaliste, ça a été la consécration. Avant, au Daily American, qui était le journal américain de Rome, où j'ai travaillé avec une femme extraordinaire qui s'appelait, nom d'un prince probablement, Dubois. Et puis après, j'ai eu la chance d'être au Globe, qui était le grand journal européen, avec des moyens énormes et surtout les meilleures signatures d'Europe. Et on n'était que deux femmes. Et la fête des langues, le fait que j'avais toujours vécu dans un milieu très international, a fait que j'étais un peu la mascotte, parce que guerre au Liban, guerre aux Malouines, ce qui se passait dans le monde, je pouvais traduire une dépêche en 2 minutes et la résumer. Et puis on voyait bien que j'avais envie de faire des choses. Donc, à commencer par le directeur qui m'a vraiment poussée en me disant « Vous êtes curieuse, montrez-nous ce que vous allez faire. » Et m'a donné des grosses responsabilités, moi j'avais 19 ans. Par exemple, c'était moi qui parlais avec tous nos correspondants internationaux, et c'était Vargasiosas, Dahrendorf, Duby pour la France, Samuelson, je veux dire, c'était des grands messieurs, alors c'était pas moi qui disais qu'est-ce qu'il fallait leur dire, s'il y a des réunions, vous connaissez les réunions de rédaction, etc. Mais celles qui leur parlaient dans leur langue pour leur dire voilà ce qu'on voudrait. Et je me rappelle un jour, j'ai eu une grande satisfaction, c'était le mondial de foot, puisqu'on est en plein mondial de foot, en Espagne. Et donc, le directeur dit, Chiara, il faut convaincre Margaciosa de faire tous les jours quelque chose sur le foot. Et alors, ma garçon m'a dit, mais moi, je n'ai rien à faire du foot. C'est pas parce que je suis sud-américain que je dois m'amuser à parler du foot. Et alors, moi, je lui ai dit, mais oui, mais vous pourrez faire quelque chose du style les éléphants, les Allemands, contre les libellules, les Espagnols, un truc latino-américain. Banco, premier truc a été les libellules contre les Africains, les éléphants, etc. Donc, en fait, vous voyez, j'arrivais de façon très délicate, toujours sans imposer, à faire avancer les choses. Et on m'a donné, une fois de plus, des énormes responsabilités, dont une que je vous ai racontée, je ne sais pas si j'ai le temps de la partager, oui. Parce que ça a été un grand moment pour moi dans ma vie, des moments qui vous marquent. C'est, moi, j'étais souvent là la nuit, parce que ouais, j'étais la plus jeune, la plus... Voilà. Et donc, il y a une heure du matin, dépêche qui arrive d'Argentine et qui dit « Les Belgrano, cool ». Et donc, les Belgrano étaient le bateau amiral de l'armée des Malouines. Et vous savez qu'en Italie, c'était hyper important. Nous, on était tous du côté des Argentins, dont on avait au moins 800 000 personnes qui votaient encore pour l'Italie. Donc, c'était notre guerre, quelque part. On la suivait au quotidien. Et donc, il n'y a plus personne de la rédaction. Je descends dans la typographie. C'était, ça peut vous paraître la préhistoire à vous qui nous écoutez, mais c'était encore une typographie où on changeait à la main les différentes lettres. Et donc, je descends, je tape à la porte, on me dit, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'était archi interdit, bien sûr, d'aller là-bas. Et donc, je dis, écoutez, voilà, il faut changer la première page. Voilà l'image du Belgrano qui coule. Il faut mettre vers la fin de la guerre. Je vous ai préparé un petit texte, etc. Elle dit, mais vous avez l'autorité de qui? J'ai dit, personne, mais il faut le faire. Et par miracle, le type m'a obéi. Alors que je ne pouvais pas appeler le directeur, je ne pouvais pas appeler le rédacteur en chef. Et je peux vous dire qu'en attendant jusqu'au lendemain matin, à 6h30, 7h, que les autres arrivent et que le journal était sorti, que j'ai eu vraiment la trouille, pour parler au bon français, de ma vie, parce que j'ai dit, mais est-ce que je fais une bêtise? Est-ce que j'étais pas autorisée à le faire? Est-ce qu'on va même m'y virer tout de suite? Etc. Et en fait, heureusement, on était l'unique journal en Europe qui a eu le scoop, disant, voilà, la guerre va finir. Et évidemment, le directeur m'a adoré, il m'a dit, bravo, vous avez bien fait tout ça. Mais, voilà, on prend des risques, on prend des gros risques.
Il fallait cette audace.
Et il fallait aussi, c'était désobéir, parce qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup fait ça dans ma vie. J'ai pris beaucoup de risques en disant, je prends sur moi, et puis je suis sûre que c'est la bonne chose. Mais si ça ne marche pas, j'en paierai les conséquences.
Je vais me concentrer, parce qu'on a peu de temps, sur votre rôle pour défendre les femmes. Quand on vous écoute, on a l'impression que votre position de femme ne vous a pas posé de problème. Au contraire, elle vous a porté, elle vous a donné des opportunités. Mais alors, quand vous êtes-vous dit, être une femme, finalement, ça ralentit les autres, il faut faire quelque chose, il faut faire avancer cette cause-là.
Moi, Sandra, ça n'a pas été ça. Moi, effectivement, j'étais souvent, presque toujours, l'unique femme au milieu d'eux. Mais j'ai toujours eu des femmes, des hommes qui m'ont plutôt poussée. qui ont dit, je crois en vous, vous pouvez faire des choses que les autres ne sauront pas faire. Parce que j'étais un peu différente. Et par exemple, à la région Île-de-France, quand je suis arrivée, j'ai dit, écoutez, pourquoi on ne fait pas un accord de coopération avec Pékin? On ne m'a pas dit, elle est complètement folle. On est 87, je suis allée négocier toute seule avec Chen Zitong, le maire de Pékin. Je me suis soudée toute seule avec les dentelles des deux côtés. Et surtout, le soir, à l'Assemblée nationale, où il y avait plus de 1000 participants, l'ambassadeur me dit, Kira, maintenant, c'est à vous de parler. J'ai dit, quoi? Mais moi, je ne savais pas du tout qu'il fallait faire un discours. Donc voilà, vous vous trouvez dans des situations. Mais jamais le fait d'être une femme, qu'elle soit au Vietnam, dans les pays du Golfe, où j'ai énormément travaillé, on allait chercher des investisseurs, des capitaux, des industriels. Jamais on a dit, on ne serre pas la main parce que c'est une blonde ou c'est une femme. Jamais. Au contraire, puisque j'étais l'unique, on disait, ben, elle doit forcément être hyper forte, sinon elle ne serait pas là, sinon ce ne serait pas elle qui conduit la délégation, sinon les autres hommes qui sont là ne seraient pas là à l'écouter, à la respecter, à la laisser conduire, etc. Donc jamais, jamais, jamais. En revanche, j'ai une fois où j'ai un déclic, mais pas... D'abord, ça me peinait d'être seule, parce que préparer tous ces voyages, j'ai passé comme ma vie, j'ai travaillé dans 80 pays, j'ai voyagé énormément. Et c'est vrai que quand vous voyagez seule femme, ça veut dire que quand vous faites la valise, pour une histoire toute bête, vous vérifiez à ne pas avoir des robes qui ont des boutons derrière, parce que vous ne pouvez pas vous boutonner toute seule. Donc voilà, c'est toute stupide. C'est que, bien entendu, vous n'avez jamais en maillot de bain sur une plage, alors qu'il y a des plages idylliques, etc., parce que vous êtes une femme. Donc en fait, vous vous privez de beaucoup de choses. Vous n'allez jamais dîner toute seule à un restaurant. Maintenant, ça se fait, mais à l'époque, on n'allait jamais dîner toute seule à un restaurant d'hôtel, parce que sinon, on imaginait je ne sais pas quoi. Donc ça, ça m'a coûté. Mais jamais la position vis-à-vis des gens. Mais une fois, j'avais négocié pendant un an et demi un accord de coopération avec Tokyo. Le gouverneur de Tokyo était un descendant de Shogun, une personne extrêmement respectée, extrêmement puissante. Il avait une espèce d'ambassade à Paris que pour lui. Et nous, la coopération avec les régions était très technique, était très sur la gestion urbaine, sur, on exportait du savoir-faire, bien entendu. Et on se trouve à ces dîners, on était six à table. Les deux présidents, le gouverneur président, les deux directeurs généraux, l'ambassadeur et moi. Et puis, debout derrière nous, deux... d'interprètes beaucoup plus âgés que moi, moi j'avais 25 ans, beaucoup plus âgés que moi, qui ne mangeaient pas, qui étaient debout, on se sent déjà très mal à l'aise, voilà. Et puis l'ambassadeur me dit, surtout Kara, tu n'ouvres pas la bouche, c'est les deux, le président et le gouverneur qui parlent. Donc, moi je reste tranquille dans mon coin. Et puis à la fin, tout à coup, le gouverneur se tourne vers moi et me dit, mais est-ce que ce matin, Madame Corazza, vous étiez au parc de Ueno parce qu'il y a un bébé panda qui est né? Alors, dans ces cas-là, il y a deux solutions. Ou vous levez, vous claquez la porte et vous les envoyez tous se balader, après avoir travaillé pendant un an et demi, etc. Ou vous choisissez la solution soft, le leadership gentil, disons. Vous faites un énorme sourire, vous dites « Oh, monsieur le gouverneur, je suis tellement désolée, mais ce matin, on était sous la baie de Tokyo, au milieu des déchets, pour construire les îles et voir comment utiliser bien les déchets pour faire des îles. » Donc voilà, au milieu d'une odeur nauséabonde. Et donc, et puis, j'ai dit, mais monsieur le gouverneur, toujours avec un superbe sourire, mais monsieur le gouverneur, comment s'appelle ce bébé panda, faisant semblant d'être hyper intéressé à la vie de ce bébé panda? Et là, il m'a dit, s'appelle Tonton. Autoroute. Ah, monsieur le gouverneur, notre président de la République, François Mitterrand, son surnom est Tonton.
C'est
et
vrai.
Il s'est mis à rire. Et tout le monde, pendant trois jours, c'était celle qui avait fait rire le gouverneur. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, jamais plus de ma vie, je serai celle à laquelle on parle de bébé. Jamais plus. Parce que c'était ma faute. Je m'étais positionnée comme quelqu'un qui était une pot de fleurs, qui était là, qui écoutait en face, mais qui ne faisait rien. Et donc, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que nous, les femmes, on doit apprendre. On doit apprendre à non seulement être compétente, mais démontrer qu'on est compétente. Et c'est là que je commençais à mettre en valeur des femmes. J'ai commencé quand j'étais à la tête de l'Agence pour les investissements internationaux. Je me suis dit, mais je fais tous les années des grands forums, je fais tous ces... Je n'arrive jamais à trouver des femmes, alors qu'on a des groupes de travail hyper importants, j'ai énormément de gens compétents, etc. Et vous avez dans chaque secteur des femmes top, par exemple la patronne de Gessina, plutôt que à l'époque l'unique femme qui était au COMEX de la BNP Paribas, etc. etc. Borina Andrieux, directeur général de Villemotte, donc on vous parlait d'aménagement, d'excellence, d'urbanisme, d'architecture, des femmes hyper compétentes. Mais faisons un cercle des femmes du Grand Paris. Donc c'est la première fois que je fais quelque chose de vraiment de spécifique pour pouvoir avoir des femmes à mettre en valeur en disant voilà, elles sont hyper compétentes, ceux qui sont dans leur secteur le savent, mais pas de façon générale. Donc, cercle pour les mettre en valeur. Et l'autre chose que je fais, parce que moi, j'adore créer des passerelles entre les continents, j'ai eu cette chance de voyager beaucoup, donc je connais des amis partout dans le monde. Et il y a une chose qui m'embêtait fortement à la fin des années 80, c'était une espèce de stigmatisation contre le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, donc ces pays qui émergeaient à Dubaï sont en train de nous faire je ne sais pas quoi, les autres. Donc et c'était une espèce de, voilà, peut-être de jalousie de voir que ça passait si vite chez eux. Et je me suis dit, le cheval de Troie, ça va être les femmes. Je vais inviter, puisque je suis à la tête pour l'Agence pour les investissements internationaux, avec la complicité de Christine Lagarde, qui était à l'époque ministre des Finances, on convite 200-250 femmes dans les business et on les appelle à venir à Paris pendant 3 jours comme investisseuses, pas comme femmes. Alors, bien sûr qu'on a fait du shopping à droite à gauche, parce qu'à la fin, on avait privatisé différents magasins, mais c'était là pour vendre la tour à la Défense plutôt que mettre de l'argent dans les 7 matchs. Donc, c'est là que je me suis dit, voilà, les femmes comme contributeurs. Moi, si vous voulez, ma bataille pour les femmes a toujours été quel est le rôle positif qu'elles peuvent apporter à l'économie, à la société, au défi de notre temps, en me disant que voilà, où est-ce que sont les femmes dans l'intelligence artificielle? Où est-ce que sont les femmes dans les négociations de paix? C'est là que c'est important. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important de protéger les femmes, etc. Mais je dis aussi que les violences contre les femmes viennent au fait aussi qu'elles sont dans une situation pas choisie, de soumission. Je n'ai jamais vu un homme battre une astrophysicienne. Jamais. Jamais.
Ça va avec trouvez-moi la position un exemple économique.
Si une femme vous ramène plein d'argent à la maison, ou si elle a une position intellectuelle très compétente, qui au contraire est un intellectuel supérieur à vous, vous la respectez. Mmh. Donc, il faut donner aux femmes les mêmes moyens, les mêmes compétences que les hommes pour être là où elles peuvent apporter leur contribution, dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine pour les hommes, un domaine pour les femmes. Dans tous les domaines. On peut être précieux partout. Et vous savez quoi, puisqu'on parle des guerres en ce moment, un général qui veut gagner une bataille prend toutes les ressources, prend tous les talents. Il ne dit pas « je prends que les hommes, que les femmes ». Prends tout ce dont on a besoin. Et nous, on a besoin de femmes. Pas parce qu'elles sont meilleures que les hommes, mais parce qu'il y a un talent féminin qui n'est pas utilisé et dont on se prive de façon complètement suicidaire.
Complémentaire. On va regarder
d'où,
les photos.
D'où ce que je fais pour les femmes.
On va regarder vos photos.
BFM Entreprise, leadership, la méthode.
Deux photos, vous avez choisi, on va les regarder dans cet écran juste à côté de nous. Première photo qui s'affiche, c'est quoi cette photo-là, Chiara Corazza, Women in Tech Awards?
Alors, ça, c'est une photo de paresse, parce que c'est la dernière photo où je reçois un award, c'est il y a un mois et demi, au Cap. Et elle m'est très chère. Alors moi, je n'aime pas la autoproclamation, j'ai reçu plein de trophées, de prix, etc. Mais celui-là m'est très très cher, parce que d'abord, je ne m'y attendais pas. Comme vous voyez, la surprise totale. On était dans ce dîner de gala, tranquillement assis, vers 11h du soir. On m'appelle sur la scène en disant, voilà, Chiara, Women in Tech Award, monde. Et ça m'est très cher parce que dans mes combats, c'est lui peut-être pour lequel qui me paraît le plus important, c'est celui de faire en sorte que les femmes puissent participer à la construction des métiers du futur. Mm-hmm. 85% des métiers sont inventés. Pourquoi on a seulement 6% des CEO? Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut des compétences d'ingénieurs, il faut des compétences dans les digitales, il faut des compétences dans les algorithmes. Et si vous avez que 22% de femmes derrière les algorithmes, bien entendu, elles ne peuvent pas arriver à constituer, eux, la start-up de demain, ou concevoir, je ne sais pas, quel logiciel dont on a besoin. Première chose. Deuxième chose, pourquoi? Parce que ça fait depuis très longtemps, j'étais vraiment une pionnière. Dès 2016-2017, je commençais à dire quels sont les endroits où il faut avoir des femmes. Et donc, c'est effectivement tout ce qui est métier du futur. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Le gouvernement français m'a confié une mission sur comment attirer plus de filles et de femmes dans les STEM. Et j'ai fait un rapport au moment du G7, il y a 7 ans, pour la France, qui après était un peu, comment dire, pionnier dans d'autres pays. Plusieurs pays s'en sont inspirés, tout ça. Parce qu'en fait, on constate que le pouvoir vient de compétences. Et donc, moi, je suis de l'idée de dire, on commence à 3 ans à l'école, filles et garçons, les mêmes études. Mmh. Pas en compétition, et on ne dit pas aux filles c'est, les maths sont trop dures, on ne dit pas les humanités d'un côté, les sciences dures de l'autre, parce que ça va décevoir les gens. On va leur dire, si vous voulez faire quelque chose de bon, de positif, vous êtes infirmière, et bien écoutez, invitez le vaccin qui va soigner les gens, ou le robot qui va vous permettre de remplacer des infirmières un jour. Vous voulez transmettre, vous voulez être maîtresse d'école, et bien inventez les mains, ayez les outils pour aller bien au-delà, et ne pas rester dans des positions secondaires, mais devenir les leaders. Et puis regardez en France, qui sont les femmes au CAC 40 dans des métiers hyper techniques. On a Engie, on a Orange, on a
Bureau Veritas, Inda Garbi,
on a bien,
une scientifique.
On a Sanofi et on a Veolia.
Ouais.
3 sur 5 sont polytechniciennes. Les talents n'ont pas de genre, comme disait mon ami Elisabeth Moreno, les deux autres sont scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont là parce qu'elles sont compétentes. Parce qu'elles sont, voilà. Mais cette compétence, on l'acquiert en étudiant et en choisissant les bonnes filières. À mon époque, on changeait le monde avec une plume. Maintenant, on la change avec des compétences techniques.
Dans
Donc, message aux mamans.
Votre deuxième photo, on va la regarder tout de suite et vous allez nous la commenter. Qu'est-ce que c'est ?
C'est mon autre grand combat. Moi, je suis une de grandes promotrices et depuis très longtemps de la féministe diplomatie. Je trouve que la solidarité des femmes. Hier encore, j'étais avec la présidente de la Biélorussie libre à l'extérieur, une femme qui a été élue démocratiquement, mais bien sûr, on lui a volé son élection parce que c'était bon. Vous connaissez très bien l'histoire. Là, je suis avec quelqu'un que j'aime énormément et que je me targue de dire que c'est une amie. C'est Oleksandra Matvouch, c'est la prix Nobel de la paix ukrainienne de 2022. Et je dois dire qu'elle était très peu connue et j'ai commencé à l'inviter partout pour lui dire que c'est une femme extraordinaire qui, tous les jours, est sur le terrain pour recueillir les evidences et amener les criminels au tribunal de la haie. Donc, elle n'est pas là pour faire pavoiser le prix Nobel. D'ailleurs, elle était tellement modeste qu'elle n'était pas connue. Et moi, je me suis donnée comme mission de l'amener à droite à gauche. Et là, c'est l'année dernière, lors du Global Leadership by Women Summit de l'année dernière, où elle était là, comme il y avait aussi la présidence de la Géorgie, en dénonçant avec énormément de courage, parce que le courage de ces femmes, vous imaginez pas, elles sont menacées de mort. Cette année, je vais voir toujours au Global Leadership by Women Summit qui se tient le 5 et le 6 à Marseille, il va y avoir Zarifa Gharafi, qui est cette formidable Afghane, qui était la mère d'une des plus importantes villes de l'Afghan, qui était bien sûr, a eu tous les malheurs de la planète, a réussi à être exfiltrée, mais c'est des femmes qui méritent de prendre la parole, parce qu'elles, elles agissent, elles font les choses. Donc, non seulement leur donner la parole, mais travailler ensemble pour faire en sorte que, par exemple, on n'ait plus des femmes aux tables de négociation. Vous avez vu en ce moment que des hommes. Moi, je ne dis pas que les hommes ne sont pas bons. Je dis juste que, quand il y a au moins 30% de femmes, toutes les études démontrent que les paix durent au moins 30 ans de plus. Au moins 30 ans de plus. Et le dernier traité de paix qui a été négocié par des femmes, vous savez à quand ça remonte, Sandra ?
Il y en a eu
1529.
Oui, d'accord.
La paix des dames.
Oui.
C'était deux grandes dames qui se sont dit que leur petit coq des fils et des neveux, qui était François Ier et qui était Charles V, qui après empereur et roi de France, je veux dire, c'était pas n'importe qui, et qui guerriaient pour avoir l'Italie, leur petit joujou. Et pendant cela, il y avait les enfants qui languissaient dans les prisons en Espagne. On dit stop. Stop, maintenant on prend les choses en main, ils ont payé, tout simplement, et avec de l'argent, ils ont résolu une situation de guerre. Donc du bon sens, du pragmatisme, dont le monde a besoin dans ce moment où vous avez cinq hommes qui décident pour tout. On ne peut pas les laisser tout seuls.
Ils décident littéralement.
Il faut tempérer, il faut qu'il y ait une gouvernance équilibrée, une gouvernance qui soit centrée sur l'être humain, parce que ces gens s'en fichent complètement de nous, de la planète, du futur de l'intelligence artificielle. C'est pas leur problème. Alors que les femmes sont beaucoup plus... peut-être, je ne sais pas si c'est un stéréotype, mais je pense que les femmes sont quand même beaucoup plus intéressées à ce qui se passe à long terme. Et c'est mon expérience. Moi, je me suis toujours appuyée sur les femmes. C'était toujours plus efficace. Ça marchait. Ça fonctionnait. C'est pragmatique. Donc, pas des grandes idées, pas des grands discours, mais efficacité.
Il nous reste deux minutes avec cette carrière que vous avez eue. Vous avez un poste encore aujourd'hui d'observatrice de justement de cette cause
d'actrice.
Des femmes et d'actrice. Mais vous avez vraiment vu aussi au fil des années tout ce qui se passait, ce qui a progressé et ce qui a régressé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là maintenant en priorité ?
Vous savez, si on n'avance pas, on recule. Et quand vous êtes au bord d'un précipice, c'est très facile de tomber de l'autre côté. Donc, il faut très, très vite se prendre les choses en main. Et nous sommes en train de reculer. Nous sommes en train de reculer, paradoxalement, dans les pays les plus avancés. À commencer par les États-Unis, qui ont lancé quand même une campagne très claire, y compris des menaces économiques très importantes.
Oui.
Moi, je comprends très bien une entreprise qui dit, attendez, moi, je vais perdre tous mes contrats, je vais pas m'amuser à mettre en valeur les femmes, on va faire de la politique de diversité parce que je perds tous mes contrats. En fait, je les comprends et non. Je comprends parce que je pense que c'est une vision à très court terme. Je suis convaincue que ce zigzag n'est pas bon. Je suis convaincue que les jeunes générations ne veulent pas revenir en arrière. Mais pas que pour les femmes. En général, pour tous ceux qui sont nos valeurs, nos fondamentaux, tout ce qui est, par exemple, la lutte pour le climat, etc., la façon de consommer responsable, tout ça, on ne reviendra pas en arrière. C'est une parenthèse. Et nous risquons beaucoup, parce qu'après, revenir, c'est très... Et donc, moi, ce que je dis à ces leaders que je rencontre, il y en a beaucoup qui sont courageux, beaucoup d'hommes sont courageux. Et beaucoup d'hommes continuent à croire en ce qu'ils font. D'autres le font en cachette ou presque, et d'autres femmes le font en cachette complètement, parce que justement, elles pensent que ça peut leur porter le préjudice. Et c'est triste parce qu'en fait, vous savez, j'ai eu la chance de connaître Madeleine Albright. Il y a une place en enfer pour les femmes qui ne s'entraident pas. Et ça, c'est un de nos gros risques en ce moment. Parce que par peur, par courage, on s'est dit, nous, on a déjà ça, tellement nous, on aime bien que ça soit pas remis en cause. Et donc, mais dans le monde, hein, moi, je ne parle pas de la France, dans le monde. Et je voudrais vous parler du paradoxe du genre. Les pays qui partaient de plus loin, on partait du Moyen-Âge, qui sont l'Arabie Saoudite, qui sont les Émirats, qui sont, disons, les pays du Golfe en général. C'est les pays, l'Iran. C'est un des pays où vous avez le taux plus important d'ingénieurs. 65% le maximum, c'est aux Émirats. Et c'est ces femmes qui ont étudié, qui sont compétentes et qui maintenant sont sur le marché, mais ne reviennent pas en arrière, ne sont pas folles. Et leurs gouvernements sont en train de faire énormément de programmes de formation, de mettre énormément d'argent, parce qu'elles ont compris quelle est la valeur ajoutée pour l'économie, pour la société, pour l'ensemble de leur pays, mais pas que pour une question d'image. Ce n'est pas du greenwashing. Ils ont compris que maintenant, en Arabie Saoudite, vous avez 35% des femmes sur le marché. C'était 2% il y a 10 ans. Mais ces femmes-là, elles produisent, elles emploient des gens, elles créent de la richesse.
Le pragmatisme, ce sera le mot de la fin.
Et le leadership équilibré.
Merci.
Mon mot est le leadership équilibré. Si on ne met pas hommes et femmes à côté pour prendre les grandes décisions, on va ou on est en train d'aller dans le mur.
Merci beaucoup, Chiara Corazza, d'être venue dans cette émission. Leadership, le leadership équilibré. On garde cette formule, effectivement. On se retrouve tous les lundis à 12h30 sur nos réseaux sociaux également. Très bonne journée sur BFM.
Merci beaucoup, Sandra. Merci.
BFM Entreprise, leadership, la méthode sur BFM Business.